Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1966, « Le harem et les cousins » est un essai ethnologique de Germaine Tillion consacré à la condition des femmes et aux formes de parenté dans les sociétés méditerranéennes et proches orientales. Appuyé sur ses enquêtes en Afrique du Nord, notamment dans les Aurès, ainsi que sur une vaste comparaison historique, la chercheuse refuse les explications qui réduiraient la domination féminine à une religion, à une ethnie ou à un prétendu tempérament culturel. Son objet est plus large, comprendre comment des organisations familiales fondées sur la fermeture du groupe, le mariage entre proches et la préservation des biens ont modelé les rapports entre les sexes. Le harem désigne ici moins un lieu exotique qu'un système de claustration et de contrôle, tandis que les cousins renvoient à la logique endogamique. Dans une langue volontairement accessible, Tillion propose une anthropologie engagée, attentive aux mécanismes matériels, sociaux et historiques qui rendent certaines inégalités durables. L'ouvrage de même une référence importante, tout en appelant une lecture critique de ces généralisations datées. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le harem comme effet social plutôt que comme essence religieuse. Le point de départ de Germaine Tillion consiste à démystifier le harem. Elle ne le traite ni comme une curiosité orientale, ni comme la conséquence mécanique de la religion musulmane. Pour elle, la claustration, le voile, la surveillance de la sexualité féminine et la limitation de la circulation des femmes doivent être replacées dans une histoire sociale beaucoup plus ancienne et plus vaste que les seules sociétés musulmanes. Elle souligne que des pratiques comparables ont existé dans diverses sociétés du bassin méditerranéen, chrétiennes, juives, antiques ou musulmanes. Ce déplacement est décisif, il oblige à distinguer les prescriptions religieuses, leurs interprétations et les usages sociaux qui les précèdent ou les contredisent. Tillion observe notamment que des droits successoraux reconnus aux femmes peuvent être neutralisés dans la pratique par des stratégies familiales destinées à empêcher la sortie des terres ou des biens hors de la lignée. Le contrôle féminin devient alors un instrument de conservation patrimoniale et de défense du groupe. Cette analyse ne minimise pas les violences subies par les femmes. Elle cherche au contraire à en identifier les ressorts concrets. Elle évite ainsi deux simplifications opposées, accuser une religion de manière globale ou présenter les traditions comme immuables et naturelles. La condition féminine apparaît comme le produit historique de rapports de parenté, de propriété et de pouvoir. Deuxièmement, endogamie et mariage entre cousins au centre de la République des cousins. Les cousins du titre désignent une préférence pour le mariage à l'intérieur du groupe de parenté, et particulièrement dans de nombreux contextes arabes étudiés par Tillion, avec la cousine parallèle patrilatérale, fille de oncle paternel. Cette orientation endogamique répond à une logique de continuité conserver les femmes, les biens, le nom et les alliances dans une même lignée. Tillion oppose cette tendance à des systèmes où le mariage crée prioritairement des liens entre groupes distincts. Son intérêt ne réside pas dans une simple description des règles matrimoniales. Elle montre que ces règles organisent la transmission des ressources, la solidarité masculine, les hiérarchies familiales et la définition de honneur. Le mariage entre proches peut sembler protéger les intérêts de la famille, mais il tend aussi à enfermer les choix individuels dans une stratégie collective. La femme y devient un enjeu de cohésion lignagère et de contrôle patrimonial. La formule « République des cousins » permet donc de comprendre une société où le lien politique et social se construit fortement à partir de la parenté. Tillion insiste sur le fait que les systèmes de parenté peuvent peser davantage sur la vie quotidienne que les institutions politiques formelles. Sa thèse invite à regarder derrière les catégories religieuses ou nationales pour analyser les structures familiales qui déterminent les possibilités de mariage, de mobilité, de succession et de liberté. Cette perspective explique la portée comparative de son enquête méditerranéenne. Troisièmement, la carte de la charrue relie économie agricole et structure de parenté, une des hypothèses les plus célèbres de Tillion, relie les formes de parenté aux conditions économiques. Elle la résume avec humour par la formule selon laquelle la carte du harem correspond à la carte de la charrue. Cette formule ne signifie pas que l'agriculture produirait automatiquement la domination des femmes. Elle désigne une corrélation historique à examiner entre sédentarisation, mise en valeur des terres, accumulation transmissible et intensification du contrôle familial. Quand une famille possède des biens durables, notamment des terres, la question de leur transmission devient centrale. Les mariages et le statut des femmes peuvent alors être organisés afin de limiter la dispersion du patrimoine. Tillion compare notamment les zones au nord et au sud du Sahara et s'intéresse à la persistance de systèmes de filiation utérine dans certains espaces sahariens. Elle propose que les différences observées ne se comprennent pas seulement par les croyances, mais aussi par les modes de subsistance et les formes de propriété. Son raisonnement donne une profondeur historique à des réalités contemporaines, coutumes matrimoniales, héritage, rapports entre ville et campagne. et contrôle de la mobilité féminine. Cette ambition explicative fait la force mais aussi la fragilité du livre. Les sciences sociales ultérieures ont nuancé les grands modèles reliant écologie, économie et parenté. Néanmoins, la démarche demeure féconde car elle refuse de séparer les normes familiales de leurs conditions matérielles et de leurs transformations historiques. Quatrièmement, ville, décomposition tribale et renforcement des contrôles sur les femmes. Tillion examine un paradoxe important, la migration vers la ville et la désagrégation des anciennes solidarités tribales ne conduisent pas nécessairement à une libération immédiate des femmes. Dans son analyse, la ville expose les familles à la proximité de groupes étrangers, à la concurrence sociale et à une perte de protection collective. Certaines familles répondent à cette insécurité par un durcissement des dispositifs de séparation des sexes et de surveillance de la respectabilité féminine. Le voile, la réclusion ou la limitation des déplacements peuvent alors être interprétés comme des réponses sociales défensives, plutôt que comme de simples survivances rurales. Cette proposition rend compte de la manière dont une transformation matérielle peut susciter une réaffirmation de normes anciennes. Elle évite de confondre urbanisation et modernisation sociale automatique. La ville ouvre de nouvelles possibilités de travail, de scolarisation et de rencontres, mais elle peut également accentuer les anxiétés liées au statut, au patrimoine et au regard des autres. Tillion ne présente donc pas les sociétés traditionnelles et urbaines comme deux blocs opposés. Elle observe des transitions, des recompositions et des stratégies de protection qui ont souvent pour coup une restriction accrue de l'autonomie féminine. Cette grille de lecture garde un intérêt pour étudier les changements sociaux. Elle rappelle que les pratiques de genre doivent être analysées dans leur contexte de mobilité, de précarité, de rupture des solidarités et de compétition entre familles. En dernier lieu, une anthropologie méditerranéenne engagée et accessible au grand public, le harem et les cousins se distinguent aussi par sa méthode et par son adresse. Tillion ne veut pas produire une monographie réservée aux spécialistes. Elle s'appuie sur observations ethnographiques, comparaisons historiques, analyse des coutumes, des langues et des règles matrimoniales, mais elle expose ses hypothèses dans un style direct, souvent ironique. Ce choix correspond à son enjeu moral, la condition des femmes concerne une part considérable de l'humanité et ne doit pas rester enfermée dans un langage savant. Le livre contribue ainsi à faire reconnaître en France une anthropologie de la Méditerranée attentive aux parentés structurelles entre les deux rives, au lieu de découper le monde entre Occident moderne et Orient immobile. Son féminisme est également singulier. Tillion décrit oppression féminine comme un mal social qui dégrade les femmes, enferme les hommes dans des obligations de contrôle et appauvrit les sociétés qui maintiennent ces arrangements. Elle ne cherche ni à idéaliser les cultures observées ni à les condamner de l'extérieur. Cette position explique la vigueur durable de l'ouvrage, mais aussi les débats suscités par ses généralisations. Certaines données, catégories et rapprochements portent la marque des connaissances disponibles dans les années 1960. Une lecture actuelle doit donc distinguer la puissance de ces questions de la validité complète de chacune de ses conclusions. Cette réserve ne retire rien à la valeur du livre comme invitation à relier enquête de terrain, histoire longue et responsabilité intellectuelle. En conclusion, Le harem et les cousins convient aux lecteurs intéressés par anthropologie, histoire sociale de la Méditerranée, études de genre et Afrique du Nord. Il sera particulièrement utile à ceux qui souhaitent dépasser les explications rapides sur le voile, le harem, le mariage entre proches ou la place de la religion dans les inégalités entre femmes et hommes. Le principal bénéfice intellectuel de la lecture est de fournir une méthode de décentrement au lieu de chercher une cause unique. Tillion relie parenté, héritage, économie, urbanisation, mémoire historique et normes de respectabilité. Elle aide ainsi à comprendre que les pratiques sociales ne se réduisent pas aux textes religieux et que des institutions familiales peuvent survivre en se transformant dans des contextes nouveaux. Par rapport à de nombreux essais sur la condition féminine dans les pays musulmans, le livre se distingue par son ampleur comparative. Il ne traite pas le monde arabo-musulman comme une exception et met en regard les héritages de diverses sociétés méditerranéennes. Il se démarque aussi des ouvrages exclusivement théoriques par le poids de l'expérience ethnographique de son autrice et par sa volonté de parler à un large public. Les lecteurs doivent toutefois garder une distance critique publiée en 1966. Le livre repose sur des catégories et des hypothèses que des recherches postérieures ont discutées ou précisées. Cette limite fait aussi son intérêt pédagogique. Lire Tillion aujourd'hui permet à la fois de saisir une contribution majeure à l'anthropologie de la parenté et de réfléchir à la façon dont les sciences sociales construisent, testent et révisent leurs grandes explications. Si vous souhaitez soutenir Germaine Tillion, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.